Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Cette année, j'ai eu la chance d'avoir pu me rendre au Learning Show qui s'est déroulé à Rennes, au couvent des Jacobins, les 9 et 10 octobre dernier. Le Learning Show, c'est l'occasion chaque année de rencontrer l'écosystème de la formation et de plonger au cœur de ses innovations et de ses enjeux d'aujourd'hui et de demain. L'édition 2023 a proposé une grande exploration des apprentissages et de leurs évolutions autour de 5 thématiques qui étaient l'intelligence artificielle, la narration, les solutions pour former et vivre autrement, la ludopédagogie et les innovations pédagogiques. C'est la première fois que j'y allais et j'ai vraiment adoré. J'en suis revenue avec de nombreuses idées. Dans cet épisode, je vous propose un feedback de cette édition autour des ateliers auxquels j'ai pu assister. Sonia Mangin, qui est formatrice, facilitatrice et ingénieure pédagogique, apportera également son témoignage. Et à la fin de l'épisode, je vous propose également d'écouter quelques retours enregistrés en live pendant ces 2 jours. Mais avant de commencer, je voudrais remercier mes confrères du podcast Rendez-vous en Terre Digitale, Clément et Olivier, qui m'ont prêté le matériel pour pouvoir enregistrer sur place. Encore merci à vous. D'ailleurs, Clément nous fait un petit coucou.
Bonjour Clément.
Bonjour Anne-Marie, comment vas-tu ?
Très bien, merci à toi de me prêter tout ce matériel pour pouvoir enregistrer
quelques témoignages. C'est un grand plaisir, j'espère que ça te servira et que tu auras de très bons témoignages de nos participants au Learning Show.
Alors de mon côté, j'ai pu assister à 5 ateliers. Le premier était sur l'optimisation de l'impact carbone des formations et était animé par Juliette Morand et Camille Guibert. Dans cet atelier, on a pu découvrir un outil d'aide à l'optimisation de l'empreinte carbone des parcours de formation, ainsi que les sources et la méthode utilisée pour créer ce simulateur. 4 grandes modalités pédagogiques sont déjà intégrées à ce simulateur : le présentiel, la classe virtuelle, l'e-learning et la vidéo. Sans aucune surprise, les 2 modalités ayant l'impact le plus important sont le présentiel et la vidéo. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce simulateur permet de prendre conscience de l'impact des différentes modalités. C'est une aide à la prise de décision lorsqu'on est en phase de construction d'un parcours de formation pour guider les choix. Mais bien sûr, l'intérêt pédagogique doit rester la priorité. Cet outil va encore être affiné et une web app devrait être disponible en ligne pour la fin de l'année. Juliette nous dit également quelques mots sur son atelier.
Bonjour, je suis Juliette, consultante account manager chez VeryUp. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez VeryUp, nous créons, nous produisons et nous déployons des parcours de formation blended et entièrement sur mesure, sur toutes les thématiques et sur une multitude de sujets. Chez VeryUp, nous sommes convaincus que la formation a certes un rôle à jouer en accompagnant la montée en compétences des collaborateurs, mais qu'il faut aussi optimiser l'impact carbone de cette activité. Nous avons donc décidé de développer en interne, sur la base de sources fiables comme l'INSEE, l'ADEME, Hello Carbo et le Shift Project, un outil, une grille pour soutenir la réflexion et pour aider à la prise de décision dans l'optimisation de l'impact carbone des parcours dès la phase de conception. Nous avons intégré 4 grandes modalités à date, le présentiel, la classe virtuelle, l'e-learning, la vidéo, et cette liste est amenée à évoluer au fur et à mesure des mises à jour. Lors du Learning Show, pour nous, nous avons pu recueillir auprès de futurs potentiels utilisateurs les interrogations, les challenges sur l'outil. Mais bonne nouvelle, 62% des participants sont prêts à intégrer l'outil dans leur phase de conception dès demain et 32% y sont favorables dès qu'une V2 plus aboutie sera disponible. Un conseil dans l'utilisation de cette grille, c'est de toujours privilégier et maximiser l'impact pédagogique des parcours de formation avant de l'utiliser. Elle vient dans un second temps. Et pour en savoir plus, suivez-nous sur LinkedIn. Vous serez tenu au courant des différentes versions et mises à jour. Merci.
Ensuite, j'ai assisté à l'atelier de Susan Bossan qui nous proposait de découvrir comment sont constitués les jeux. En jouant à Top 10 et Magic Rabbit, nous avons pu observer quelques mécaniques de jeu et réfléchir à l'intérêt de les utiliser dans le cadre d'une démarche pédagogique. J'ai aussi découvert le jeu de cartes de Suzon, On fait un jeu, qui permet d'aider à la réflexion lors de la conception de jeu ou de serious game. Il permet de balayer les différentes composantes d'un jeu. J'ai noté 4 ingrédients clés à prendre en compte. Définir un timing, faire jouer tout le monde simultanément pour garder l'attention de tous, faciliter la coopération pour fédérer le groupe et introduire du hasard. Mais bien sûr, avant de se lancer dans la conception d'un serious game, la première question à se poser est « Est-ce que ce jeu va vraiment servir l'apprentissage ?» Suzon nous dit également quelques mots sur son atelier.
Donc moi je suis Suzon Bossan. J'ai animé 2 ateliers au The Learning Show sur la création de serious games. Donc on a abordé ensemble en fait comment est-ce qu'on allait pouvoir comprendre déjà comment sont fabriqués les jeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser des jeux existants pour aller les mettre dans des serious games. Donc en l'occurrence, on va parler de mécanique de jeu, on va parler de conditions de fin de partie, de relations entre les joueurs. Et tout ça, en fait, c'est ce qui compose un jeu, mais aussi un serious game. Donc l'idée, c'était de trouver aussi des, on va dire, des tips, des bonnes pratiques à utiliser dans la création de serious games. Par exemple, on a abordé le sujet du hasard, qui est une des mécaniques qu'on peut mettre en place dans un jeu. Le hasard, à la fois, c'est très bien pédagogiquement parce que ça nous donne ce petit côté droit à l'erreur. C'est-à-dire, je peux dire, ah, mais j'ai pas eu de chance. Et ça, c'est quand même vraiment plaisant. Et ça permet d'éviter le côté un peu mauvais joueur. En tout cas, ça permet de sauver la face pour les apprenants. Donc ça, c'est très important. Et on sait que le fait de s'autoriser, de se donner le droit à l'erreur, c'est une condition indispensable de l'apprentissage. Donc, le hasard, pour ça, il est très bien. Par contre, il a un inconvénient, le hasard, c'est que nous, en tant que pédagogues, on maîtrise moins bien les contenus qui sont proposés aux apprenants. On a moins la main sur ce qu'ils vont voir pendant le serious game. Donc, à mettre avec parcimonie, à la fois pour créer ce côté un petit peu protecteur, ce cercle magique du jeu, et en même temps, un petit peu, mais pas trop, pour garder la main sur les apprentissages.
Mon troisième atelier avait pour thème la narration dans un parcours blended learning pour engager les apprenants et était animé par Jonathan Piara et Willem Rodier. Nous le savons tous, dans une formation blended, la difficulté est de maintenir l'engagement et la motivation des apprenants tout au long du parcours. La narration permet de créer un fil rouge et de maintenir le lien entre les différentes modalités qui composent le parcours. J'ai retenu 5 clés pour construire une histoire. Tout d'abord, définir le type de l'histoire. Une aventure, une quête ou une exploration, par exemple. Ce thème doit bien entendu correspondre aux apprenants. Ensuite, réfléchir à une intrigue. Puis, créer un environnement. Imaginer un conflit ou un enjeu. Et enfin, une morale. Et nous avons pu mettre en pratique cette méthode. Dans mon groupe, nous devions imaginer une histoire pour une formation destinée à des gestionnaires de patrimoine. Nous nous sommes régalés à scénariser une formation qui se déroulerait à Barbieland et qui mettrait en scène le divorce de Barbie et Ken. J'ai vraiment adoré cet atelier qui était très très ludique et pratique. Écoutons aussi Jonathan nous dire quelques mots sur son atelier.
Bonjour, je suis Jonathan Piara, cofondateur de la société Flobo. Et avec mon associé, Willem Rodier, nous avons créé un atelier pour le Learning Show dont le thème était la narration, l'allié indispensable pour un blended learning engageant. Et donc autour d'un jeu objet pédagogique que nous venons de sortir qui s'appelle Navis, qui est un jeu de cartes avec des plateaux, nous aidons les concepteurs, formateurs ou experts à créer toute une conception pédagogique et à rajouter une couche scénaristique par-dessus. Et donc pendant ces ateliers, avec près de 100 personnes, nous avons pu, autour de 2 formations avec 2 cibles apprenantes différentes, construire à chaque fois 8 histoires différentes par formation, donc 16 histoires au total, extrêmement engageantes à travers donc toutes les tables des participants, conçues très très rapidement et très bien, créer une histoire basée sur les objectifs pédagogiques de la formation, tout en s'en éloignant énormément dans cette dimension narrative. Et donc au final, on avait bien les objectifs pédagogiques pour une cible qui était absolument bien adaptée, tout en étant dans des mondes tout à fait particulier, hein. On a eu par exemple pour des gestionnaires de patrimoine le divorce de Barbie et Ken, par exemple. Donc c'est très rapidement, on a réussi à avoir des vraies histoires autour de vrais objectifs pédagogiques pour accompagner les apprenants dans leur motivation et leur engagement sur un parcours blended learning.
Pour mon quatrième atelier, j'ai suivi l'initiation au prompt engineering avec Yuri Min et Sylvain Tillon. Il existe actuellement 5126 solutions d'intelligence artificielle liées à la conception pédagogique. Ce n'est pas simple de s'y retrouver. Yuri et Sylvain nous ont partagé quelques bonnes pratiques pour écrire des prompts pour ChatGPT. Tout d'abord, demandez à ChatGPT de nous poser des questions pour préciser notre demande. Attribuez également un rôle à ChatGPT. Lui demandez d'écrire selon une fonction. Par exemple, tu es un responsable formation, ou lui demander d'écrire comme s'il était une personnalité. Également, indiquer le format de sortie attendu, comme par exemple un post LinkedIn, et lui donner des exemples d'écrit pour qu'il s'imprègne du style attendu. Nous avons aussi pu tester la création d'un chatbot qui permet d'interroger ces données pour obtenir des réponses à ces questions. Concrètement, on nourrit, entre guillemets, le chatbot en lui proposant des fichiers PDF, du texte ou le contenu d'un site internet. Puis, on l'interroge. À chaque question posée, le chatbot va alors chercher l'information dans cette base de données. J'ai tout de suite pensé à l'utilisation qui pourrait en être faite dans le cadre de l'onboarding de nouveaux apprenants pour répondre à leurs questions et les orienter vers les bonnes ressources à la manière d'une FAQ interactive. Et enfin, j'ai aussi découvert Eleven Labs, un outil qui permet de générer des voix off, voire même de cloner notre propre voix. Et je compte bien le tester. Écoutons Yuri nous dire aussi quelques mots sur son atelier.
Yuri Min, doctorant en sciences cognitives. J'anime un atelier avec Sylvain Tillon sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation et dans la formation. On essaie de voir comment bien parler avec l'IA, comment faire des bonnes requêtes pour obtenir des réponses adaptées et ne pas avoir des problèmes d'hallucination, des erreurs que le ChatGPT pourrait avoir. On explore donc dans cet atelier les différents cas d'usage possibles, allant de la génération de contenu à la création d'un chatbot personnalisé pour vos apprenants. On allie à la fois théorie et pratique dans ce nouveau domaine.
Et enfin, mon dernier atelier était sur le thème de la ludopédagogie et de la gamification en formation, avec Yann Coirot et Aurélie Van Dyck. Yann et Aurélie nous ont invités à un débat mouvant pour faire la différence entre ludopédagogie et gamification. Ils nous soumettaient une proposition, puis nous prenions position physiquement pour ou contre. C'est-à-dire que nous allions nous positionner d'un certain côté de la salle en fonction de notre réponse. Personnellement, je ne savais pas du tout ce qu'était un débat mouvant. Et voici leur définition de la ludopédagogie et de la gamification. La ludopédagogie consiste à utiliser le jeu en formation pour favoriser l'apprentissage. La démarche de construction du jeu s'appuie directement sur les objectifs pédagogiques de la formation. Et la gamification fait référence à l'utilisation d'éléments de jeu dans une activité qui n'est à l'origine pas un jeu. Ils nous ont aussi fait découvrir les mécaniques cartes, qui sont un outil simple et ludique qui permet de mieux comprendre les éléments qui composent un jeu pour pouvoir ensuite les adapter dans le cadre d'une formation. Les mécaniques cartes sont disponibles en licence Creative Commons. Vous les trouverez très facilement en version PDF sur le web. Un atelier très intéressant comme tous les autres. Voilà, c'était mon feedback. À présent, je vous propose de découvrir le feedback de Sonia. Donc Sonia, de ton côté, tu as assisté à 5 ateliers et une controverse, c'est bien cela ?
Oui, tout à fait. Très dense, très intense, très instructif.
Eh bien, écoute, si tu es d'accord, je te propose de nous dire quelques mots sur ces ateliers et sur cette controverse.
Alors, je vais essayer, mais sans oublier des choses. Mais si les intervenants me corrigent, ça sera possible aussi.
Alors, Donc tout d'abord, tu as assisté à un atelier auquel j'aurais vraiment aimé assister, donc qui était animé par Catherine Coudray et dont le thème était créer un personnage réaliste. Donc peux-tu nous en dire plus ?
Alors oui, alors Catherine Coudray, elle nous a immergé dans comment on crée un personnage héros de la formation dans le cadre du digital learning, dans une micro-formation, avec un persona en fait. Donc il fallait créer un persona qui soit cohérent avec notre public cible, qui soit réaliste et qui soit précis. Et tout ça pour créer de l'identification et de l'empathie pour les apprenants et les engager dans la formation.
Très bien, bah du coup, nos auditeurs pourront retourner écouter s'ils veulent pour compléter certains de mes épisodes où j'ai déjà parlé de persona. Donc ok, donc on se base sur le persona pour créer son personnage réaliste. Très bien. Et ensuite, je crois que tu as assisté à un atelier de Laetitia Fly-Sainte-Marie, donc sur le storytelling, c'est cela ?
Et oui, en complément de ça, il y avait effectivement Laetitia Fly-Sainte-Marie qui proposait un atelier sur le storytelling où elle parle aussi dans sa conception à elle, mais également du persona. Mais l'étape d'après, c'est la scénarisation. Donc, elle part sur un scénario global. Et là aussi, elle nous a initié en petits groupes à comment on construit notre synopsis et notre résumé et comment on les fait interagir avec des personnages secondaires éventuellement. Et aussi, comment on peut s'aider avec ChatGPT pour faire le découpage scénique. Et la ligne éditoriale et les narrations et les apports pédagogiques. Voilà, donc c'était un bloc où on pouvait faire notre scénario. Et c'est aussi très pertinent pour créer de l'attention et de la mémorisation. C'est des outils très utiles pour des formations.
D'accord. Et ensuite, ton troisième atelier avait pour thème l'escape game, c'est cela ?
Alors oui, alors c'est plus un jeu que j'ai fait qu'un atelier pédagogique.
D'accord.
Parce que Quentin Sayou, il nous a carrément immergé dans une situation d'escape game pédagogique où nous devions en équipe résoudre un certain nombre d'énigmes qui nous apprenaient ce que c'était qu'un escape game pédagogique. Donc, avec les 6 E qu'il avait identifiés en s'appuyant sur le groupe Escape, qui était éducatif, expressif, équipe, énigme, évasion et évaluation, auxquels il a ajouté 2 E, express et environnement, en nous précisant que, en fait, tout ça, c'était aidant pour la mémorisation, que ce n'était qu'un outil d'apprentissage, et que c'était évidemment stimulant et engageant pour les apprenants.
Oh, j'aurais bien aimé participer aussi à cet atelier. Mais il y avait beaucoup trop d'ateliers, on ne pouvait pas participer.
Beaucoup trop, il fallait un don d'ubiquité pour pouvoir assister à tout.
Et ton quatrième atelier auquel tu as assisté était sur le co-développement.
Alors oui, le co-développement, ben là c'est pareil, c'est un peu, je l'aurais presque mis dans un outil de ludopédagogie aussi, mais ça ne sert pas qu'à ça. C'est un outil qui sert à la résolution d'une problématique en groupe. Donc il y a une règle du jeu qui a été inventée par Adrien Payet et que l'association Bac à Sable a transformé en plateau de jeu qui s'appelle Tilt. Et donc, elles nous ont fait faire le jeu en petits groupes avec des 6 étapes, deux rôles, le client et les consultants, un temps limité, de l'écoute, de la bienveillance, de l'implication. Enfin, c'est un outil très intéressant qu'on peut utiliser dans toutes les problématiques, dans tous les sujets professionnels, formation, et je trouve que c'est un bon outil à utiliser.
Et que tu utiliseras, toi, dans tes prochaines formations ?
Je pense, oui, pour faire émerger des propositions en groupe, que c'est un outil très intéressant dans le cadre des formations, en s'appuyant sur les connaissances que les apprenants ont déjà.
Et enfin, ton cinquième atelier traité de la neuroéducation et était animé par Anne-Eva Lebourdet, donc j'ai eu la chance aussi de rencontrer au Learning Show.
Alors, Aneva, le bourdet, elle nous a appris avec beaucoup de facilitation, on va dire, comment fonctionne l'apprentissage du cerveau. Et avec les quatre piliers de l'apprentissage qu'elle nous a rappelés, donc l'attention, l'engagement actif, la consolidation mémorielle et le retour sur l'info, je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Mais voilà, et donc... Comment il faut faire attention à ce que effectivement l'attention elle est volatile et sélective, donc à partir de là comment on peut faire en sorte que les apprenants restent concentrés, attentifs et apprennent mais mémorisent dans la durée.
D'accord. Ça va être super intéressant aussi.
Très intéressant.
Et enfin, tu as pu assister à une controverse sur la ludopédagogie, donc la ludopédagogie qui est ton cœur de métier. Donc, qu'en as-tu retenu ?
Alors, en fait, oui, c'est mon cœur de métier, mais je ne m'y suis pas tout à fait retrouvée complètement parce que sous l'angle de la ludopédagogie, les trois intervenants qui étaient Florence Alaincourt, Sylvain Vacarès et Susan Bosson ont surtout évoquer le serious game et donc les jeux sérieux et ses limites, hein, puisque c'était un sujet de controverse. Donc c'est évidemment tout à fait intéressant de comprendre que jouer en ludopédagogie, ce n'est pas juste apporter un jeu, c'est un avant, un après, un contexte, un public identifié et effectivement il faut être attentif à ce que ça soit utile et pratique, comme le disait aussi Quentin Sayou dans l'escape game pédagogique. Donc il y a un objectif pédagogique derrière, c'est évidemment évalué à la fin mais sur cette réserve qu'on n'a pas parlé que de la ludopédagogie en général, voilà.
Très bien. Et donc, pour finir ton témoignage, Sonia, donc qu'est-ce que tu as pensé du Learning Show, si tu devais le résumer en trois mots, et est-ce que tu y retournes l'année prochaine ?
Oui, j'y retourne. J'ai pas noté les dates encore sur mon agenda, mais oui, c'est bien sûr que j'ai très envie d'y retourner. C'était un lieu d'échange, de partage et d'enrichissement. C'est évidemment... un tout doux à faire quand on est formateur, ingénieur pédagogique, pour acquérir de nouvelles compétences, connaître d'autres personnes, découvrir de nouvelles façons de faire. Et j'adore.
Et ben moi aussi, j'ai adoré, je l'ai dit déjà dans l'épisode. Et c'est surtout un formidable moyen aussi de rencontrer ses pairs et d'échanger. Et c'est ça qui est très chouette.
Ouais, c'est échanger sur nos pratiques, sur nos envies, sur nos idées. Sur nos contre-idées aussi, enfin, oui. Discuter.
Confronter des points de vue.
Voilà.
Eh bien, merci Sonia pour ton témoignage.
Eh bien, avec plaisir, Anne-Marie, et merci pour l'invitation.
Voilà, nous allons arriver à la fin de cet épisode. Pour moi, si je devais résumer le Learning Show en trois mots, ce serait partage, expérimentation et convivialité. Et surtout de nombreux échanges avec la communauté Learning. Ce voyage à Rennes a aussi été l'occasion de rencontrer en vrai Jean-Philippe Sienne, qui monte bénévolement tous les épisodes du podcast. Et donc, pour conclure, je vous propose d'écouter quelques témoignages que j'ai pu recueillir pendant ces deux jours. Merci à Anne-Eva Le Bourdet, Laetitia Fly-Sainte-Marie, Lucie Dorn et Julien Maurice pour votre participation à cet épisode. À très bientôt et peut-être à l'année prochaine au Learning Show.
Alors bonjour, moi je suis Anne-Eva Le Bourdet, j'ai cofondé Apprenance Digitale, une agence de digitalisation pédagogique, et je suis présente sur le Learning Show parce que j'anime demain un atelier basé sur la neuroéducation et les apports des connaissances de la recherche en neurosciences cognitives pour pouvoir concevoir et animer des formations les plus efficientes possibles et respectueuses des capacités des apprenants.
Bonjour, je suis Laetitia Pli-Sainte-Marie de Let's Mind. Je suis la dirigeante et fondatrice de Let's Mind, qui est une agence spécialisée dans la création de dispositifs de formation et dans l'accompagnement de toute structure formation. Et aujourd'hui, on a une belle chance, une belle opportunité, et je tiens à remercier Nicolas Lozancic pour ça d'ailleurs, d'intervenir sur un atelier dédié au storytelling, et donc l'art de raconter des histoires en formation. Et justement, quelles sont les techniques du storytelling? Comment peut-on faire pour intégrer les techniques du scénario dans la pédagogie afin de rendre nos formations attractives, attrayantes, engageantes, impliquantes et surtout en e-learning par exemple, que les stagiaires puissent aller jusqu'au bout? Et petite nouveauté pour cet atelier, on a intégré un peu de ChatGPT pour aider justement sur la construction du découpage scénique.
Et bonjour à toutes et à tous, et bonjour à toi Anne-Marie, je suis Lucie Dorn, fondatrice de CreativIP. Je suis consultante en stratégie spécialisée en innovation pédagogique et je suis également coach en créativité pédagogique, un domaine qui me passionne profondément et c'est pourquoi j'ai été invitée cette année au Learning Show 2023. Alors cette année, j'ai eu l'immense privilège de co-animer un atelier sur l'intégration de l'intelligence artificielle en formation avec le brillantissime Nicolas Lozancic. Dans son atelier, Nicolas a mis en avant l'utilisation de l'intelligence artificielle comme facilitateur pour notre ingénierie pédagogique. Dans son atelier, donc dans un premier temps, il fait faire un déroulé pédagogique aux participants en utilisant ChatGPT. Et puis ensuite, il leur fait faire un storyboard en utilisant des intelligences artificielles de text-to-image. Et c'est là que la créativité rentre en jeu. Je me suis rendu compte que lorsqu'on rédigeait un prompt sur une IA de text-to-image, on est tout souvent peu créatif. Pourquoi ? Parce que soit on va aller sur des banques de prompts, on va aller sur des outils générateurs de prompts, peu importe, pour aller nous faire des prompts tout faits. On prend des prompts tout faits ou on génère des prompts mais qui sont déjà très bien, très structurés. Et finalement, ça bride notre créativité. Ensuite, lorsqu'on veut nous-mêmes générer un prompt, il faut respecter une certaine structure. Il faut maîtriser un vocabulaire technique qui est lié au domaine de l'image, du graphisme, de la photographie. Et puis, il faut prompter en anglais pour avoir de meilleurs résultats puisque les corpus sont anglais. Et donc, j'ai créé un jeu qui s'appelle Creative Prompt. Et ce jeu, il englobe toutes ces contraintes techniques afin de laisser le participant exprimer sa créativité et enfin générer les images telles qu'il les a dans la tête. Puis j'ai animé un atelier qui s'appelle « Libérer le génie créatif qui sommeille en vous ». Et dans cet atelier, je démontre que chacun de nous possède un potentiel créatif. Pour ce faire, je m'appuie sur des tests psychologiques utilisés en neurosciences afin de faire découvrir à chaque participant ses forces créatives. Mais aussi, je permets aux participants de se rendre compte que finalement, la créativité, elle est sociale. Et que la validation sociale, même si elle est gratifiante, ce n'est pas une validation de notre créativité. Les retours que j'ai de cet atelier, souvent, sont assez étranges, puisque similaires sur un mot. Le mot « libérer » revient souvent. « Merci, vous m'avez libéré créativement. » Et en fait, ça me touche énormément, puisque je me rends compte, quand je fais ce métier de coach en créativité, que la créativité, elle est bloquée. Puisque la créativité, il y a un dogme autour. La société a mystifié la créativité en la rendant comme une chose un peu divine. On a l'impression d'être à l'époque de Platon où une muse venait se pencher sur notre berceau et faisait de nous une personne créative ou non. Alors aujourd'hui, je pense qu'en 2023, on peut le dire, la créativité, c'est une compétence. La mécanique, c'est une compétence. La résolution de problèmes, c'est une compétence. La créativité, c'est pareil. Et si je pouvais vous donner un bon conseil, vous qui maintenant avez envie d'aller développer votre capacité créative, c'est de dire oui aux propositions, aux opportunités bienveillantes qui vous sont proposées. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut que vous alliez embrasser de nouvelles expériences. Vous n'êtes pas bricoleur ? Eh bien, bricolez ! C'est pas grave, vous allez transpercer des murs les premières fois, puis après vous allez apprendre. La créativité, c'est un peu ça. Plus vous allez vivre des choses différentes, plus vous allez vous embarquer sur des chemins que vous n'auriez jamais expérimenté auparavant, plus votre cerveau va faire des connexions neuronales entre toutes ces expériences, et plus vous allez être créatif, plus ces connexions seront fortes et plus les idées vont venir à vous. Parce que la créativité, elle naît de la convergence et de la divergence. C'est dans l'échange et dans le contraste que les idées les plus novatrices vont prendre forme. Alors je vous souhaite une belle créativité à tous.
Alors bah écoute Anne-Marie, moi c'est Julien Maurice, hein, je suis actuellement responsable du service de pédagogie à IMTBS, donc IMT Business School, et donc je viens ici finalement pour parler d'IA dans le cadre d'une controverse qui aura lieu ce soir, parce que là aujourd'hui on est le lundi finalement. Et écoute, il y aura notamment autour de la table Alain Goudet, hein, avec qui on a échangé un petit peu avec toi tout à l'heure. J'ai très hâte d'y être, on va dire. On va pouvoir essayer un petit peu de défricher ce sujet très tendance. Après, voilà, encore une fois, ça va être une controverse plutôt spontanée, je pense. Et moi, c'est pour ça que je suis venu et c'est ce qui va m'intéresser. Puis d'autre part, je vais pouvoir également assister à des ateliers. Je suis venu ici aussi, c'est la première fois que je viens en Learning Show. Je vais aller notamment à l'atelier de nos amis podcasteurs qui font le fameux podcast Rendez-vous en Terre Digitale avec Clément Cagne et son compère. Et donc finalement, je vais pouvoir aller les voir aussi en live, voir comment ils travaillent. Et puis voilà, j'ai d'autres ateliers dans lesquels je suis inscrit. Voilà un petit peu ma présence ici au Learning Show.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.